t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Les travaux de la promotion scolaire nationale 2017 se sont clôturés le lundi 14 août dernier. En effet, à l'issue de ces assises, les participants ont reconduit certaines recommandations qui ont connu un déficit d'exécution l'an passé. Il s'agit notamment d'organiser et multiplier les formations des enseignants, de poursuivre et intensifier la création des réseaux d'écoles de proximité et la prise en charge par l'État congolais des enseignants impayés du secondaire. Comment commentez-vous cette actualité? Merci une fois encore pour vos commentaires. Postez sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Vous êtes plus de 4500 à avoir consulté et commenté ce sujet qui a suscité d'ailleurs beaucoup d'appréhension et beaucoup de préoccupations. Rejoignez-nous aussi à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous pour votre intervention en direct au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 80. Alain Goy assure la mise en onde de cette émission. Nico Kalambay à la réalisation. Martin Sebujangwe supervise ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne M. Mbo Ntula qui est avec nous. Bonjour M. Mbo.
Bonjour.
Vous êtes le directeur chargé des relations internationales à l'EPSP et président du bureau de la promo scolaire 2017. D'entrée des jeux, est-ce que vous pouvez nous dire exactement dans quelle ambiance s'est déroulée cette promo scolaire 2017?
Oui, la promo scolaire 2017 s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, comme on dit. C'est-à-dire bien à la fin, en tout cas. L'atmosphère était très calme, la participation a été très active de la part de tous les participants. Donc, une atmosphère bon enfant.
Et quelles ont été les recommandations à l'issue de ces assises?
En fait, les recommandations portent sur, ou ont porté, notamment sur la culture des chiffres que nous avons déjà entamé depuis l'édition dernière de la promo, c'est-à-dire l'importance à accorder aux statistiques. Les rapports narratifs ne sont pas tout à fait de mise. Nous avons besoin des rapports chiffrés, des rapports chiffrés, c'est-à-dire sur les statistiques, d'où l'importance des statistiques. C'est une recommandation qui a été reconduite parce qu'elle date de l'année passée déjà.
Alors, qu'en est-il de l'enseignement proprement dit? Parce que, proprement dit, lorsqu'on parle de l'enseignement qui est au rabais, je crois que les trois dernières éditions, cette recommandation a été chaque fois reconduite pour peut-être améliorer. Mais cette fois-ci encore, selon nos informations, il a été reconduit cet aspect de l'enseignement, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, qui passe par quel préalable?
Oui, la formation ou l'amélioration de la qualité de l'enseignement. En fait, il faut dire que nous avons trois axes dans notre stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Il y a l'axe accès, l'axe qualité et l'axe gouvernance. pour ce qui est de l'axe qualité, la qualité passe d'abord par la qualification des enseignants, c'est-à-dire la formation des enseignants, c'est-à-dire la mise à disposition de manuels scolaires et d'autres moyens didactiques, et ainsi que, bien sûr, les conditions de travail des enseignants eux-mêmes. Mmh.
Voilà, alors là, c'est au niveau de la qualité. La gouvernance?
Bon, la gouvernance, c'est la gestion, hein. La gestion quotidienne du système à tous les niveaux, c'est-à-dire que à partir du sommet, je peux dire, à partir, comme l'enseignement, la gestion de l'enseignement est décentralisée, il faut commencer par les directeurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, et qui ont dans leur direction les sous-prévêtes, les coordinateurs ou les sous-coordinateurs qui sont des gestionnaires ou, si vous voulez, ou des gestionnaires de proximité. Sont les gestionnaires de proximité. Donc, à tous les niveaux, depuis l'école jusqu'au niveau de directeur provincial, il faut améliorer la gestion du système.
Alors, parce qu'on sait que la qualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, on sait que cette taxe revient, en tout cas, dans la plupart des cas, sur les trois dernières éditions. Cette question a été abordée avec beaucoup de sérieux possibles, mais qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui la faible exécution ou encore les déficits de l'exécution de cette recommandation depuis ces trois dernières années? Est-ce que vous avez, les participants à cette promo scolaire, ont pu aussi évaluer cet état des choses?
Oui, je ne voudrais pas parler du déficit de l'exécution de la recommandation. Nous sommes dans le quinquennat, en plein quinquennat de la qualité. Il est normal que à chaque édition nous revenions sur la qualité. Donc ce n'est pas qu'il y ait déficit dans l'activité ou dans les activités à...
Alors quel est l'état des lieux?
Parce que vous êtes en faveur de la qualité.
Oui,
nous sommes en plein quinquennat.
Oui, en plein quinquennat. Mais quel est le taux d'exécution aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que la qualité s'est nettement améliorée ou bien il y a encore beaucoup de défis? Lesquels?
Non, on ne peut pas en quelques années dire que la qualité s'est améliorée. Nous pensons que nous sommes dans le bon. Chaque année, il y a des activités sur la formation des enseignants. Il y a des activités sur les manuels scolaires, il y a des activités sur le programme même qui est en pleine réforme. Nous sommes en pleine réforme curriculaire. Donc, je ne peux pas mesurer et dire qu'on a atteint la qualité. Nous sommes dans le bon, nous sommes en train de progresser.
Oui, dans les bons, vous vous donnez quelle note jusque-là?
Non, je ne peux pas donner une note, hein. On ne peut pas donner une note parce que c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas, en quelques années, donner une note à une réforme.
Mais s'il faut faire une évaluation d'où nous venons et là où nous allons, aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il y a beaucoup d'efforts, mais quels sont les défis qui restent à relever, notamment sur la qualité?
Non, les défis, c'est surtout la formation des enseignants en cours d'emploi. La formation des enseignants, et les défis, c'est également les moyens didactiques à mettre à la disposition des enseignants. Il y a également, bien sûr...
La question des manuels scolaires pour les apprenants.
Le programme même est en train d'être révisité.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Mbo. Nous vous gardons en ligne. Il est temps peut-être d'écouter également les auditeurs qui ont au fait commenté ces sujets sur notre page Facebook et quelques-uns qui ont désiré participer directement et aussi réfléchir ensemble avec vous et l'ensemble des auditeurs qui sont au pays et à l'étranger. 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, je l'ai dit tantôt, à l'issue des assises de la promo scolaire organisée à Kinshasa, au centre, à l'Institut Bokele Yalé, les participants de l'EPSP à ces travaux ont reconduit certaines recommandations qui, jusque-là, selon certains observateurs, ont connu un déficit d'exécution l'an passé. Il s'agit notamment d'organiser et multiplier les formations des enseignants. D'ailleurs, notre invité venait de le dire tout à l'heure, c'est quand même un des grands défis qui reste encore à relever. De poursuivre et intensifier la création des réseaux d'écoles de proximité et la prise en charge par l'État congolais des enseignants impayés et du secondaire. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Junior et bonjour à tous les auditeurs de la Radio 4.
Vous venez de suivre notre invité qui a certes reconnu qu'il reste encore quelques défis à relever et aussi en évaluant dans le cadre de la promo scolaire l'année passée, c'est vrai, il y a encore beaucoup à faire et sur le plan qualité surtout, parce que tout le monde en parle aujourd'hui et il l'a dit que nous nous inscrivons actuellement dans un quinquennat, difficile d'évaluer actuellement les travail qui est fait sur le terrain, parce que ce travail se poursuit jusque-là. Alors, quel est votre commentaire?
Merci beaucoup pour la parole, J.R. Bon, je crois que tous nous sommes passés par l'école, même notre invité, il est passé par l'école. Et moi, quand je vois la situation scolaire ou la situation au niveau de l'enseignement et de l'éducation nationale, je trouve que vraiment nous nous amusons avec ce pays. Vous savez, J.R., quand il faut détruire un pays, on commence par détruire son système d'enseignement, on commence par détruire l'économie et on détruit la jeunesse et l'avenir du pays et du pays. Dans les cas qui nous concernent aujourd'hui, moi je pense ceci. Au départ, il faut voir la gouvernance, la politique de la nation face à l'éducation et à l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Tout ce que l'invité vient de dire, c'est bien beau, les programmes théoriques, c'est bien beau. Mais pratiquement, qu'est-ce que nous faisons pour arranger un peu cette situation? Parce que nous risquons, dans les prochaines décennies, d'avoir des problèmes trop sérieux sur la gestion du pays. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'a pas une éducation et une formation adéquate pour gérer ce pays. Nous, quand nous allons vivre, ce sont nos enfants qui vont gérer le pays. Mais avec quelle connaissance, avec quelle éducation, quelle mentalité? Alors, moi, de mon côté, s'il faut suivre un peu notre enseignement commence à évoluer.
Oui, Arsène. Oui, Arsène. Notre invité l'a reconnu en disant que c'est vrai, il y a trois axes, notamment l'axe qualité qui, j'imagine, a suscité beaucoup de débats lors de ces travaux parce que nous avions eu pas à ces travaux la première journée, également la deuxième. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il évoque comme défi, notamment la formation des enseignants, ça, ce n'est pas à négliger. C'est quand même un grand défi. Les moyens didactiques aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, par rapport à son budget, a-t-il les moyens de sa politique pour résoudre cette question? Et à cela s'ajoute également la question des manuels scolaires. Les enfants, les apprenants, ils étudient dans quelles conditions? Il y a des écoles où à peine il y a des bibliothèques. Il y a des écoles où à peine, même le programme scolaire est suivi de fond en comble. Parce qu'aujourd'hui, dans la problématique des écoles privées, par exemple, où les programmes n'est pas réellement respecté et les inspecteurs qui passent à compte-gouttes, tout cela, c'est à prendre en compte comme défi.
Oui, merci beaucoup, Gilles. Laissez-moi rire. Bon, voilà, nous sommes des intellectuels. Moi, je suis passé par l'école. J'ai aussi enseigné dans ma vie. Dans l'enseignement, il y a le premier élément, c'est l'infrastructure et l'équipement. Le second élément, c'est la qualité de la personne qui enseigne. Et la personne qui enseigne doit être mise dans de très bonnes conditions. Vous voyez nos enseignants, ils sont dans quelles conditions? D'abord, c'est en personnalité, en personne plutôt, la qualité dans les conditions du travail. Alors, dans les conditions du travail, nous verrons son salaire, nous verrons ses équipements, nous verrons les matériels didactiques et tout ça. Et notre nation, est-ce qu'elle est capable, avec quel budget? Parce que, allez-y comprendre, une école comme l'école que j'ai étudiée, par année, s'il vous plaît, à l'époque, avec la coopération technique belge, on dépensait près de 10 millions de dollars sur une école, je dis bien 10 millions de dollars. Alors aujourd'hui, cette école ne sait plus fonctionner. Elle manque même du mazout, même de l'électricité. Pourtant, pour former un bon technicien, parce que moi je fais la technique industrielle, pour former un bon technicien industriel, vous devez avoir l'énergie, vous devez avoir les machines, vous devez avoir le matériel, le consommable.
Et tout ça, il faut un budget conséquent.
Nous sommes dans un état où on ne peut rien acheter. Et vous allez me dire que nous allons améliorer ça aujourd'hui. Commençons d'abord à améliorer la gestion du pays, qui va nous permettre
Merci
de
trouver
des moyens conséquents.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Alors là, je crois que il va de notre devoir aussi de rappeler quelques efforts qui ont été menés pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Moi, je pourrais quand même citer les cas de la mutuelle de santé aujourd'hui qui dans son ensemble n'a pas totalement résolu les difficultés ou encore les problèmes auxquels font face les enseignants aujourd'hui, mais elle a essayé tant soit peu d'en résoudre même peut-être à 30 ou à 20 ou à 30%. Donc c'est déjà un pas. Il y a aussi la formation et la paye des enseignants dans ces quinquennats avec la bancarisation des enseignants il y a quelques temps. Donc on peut dire qu'il y a quand même des efforts qui sont menés. Merci beaucoup, Arsène. Adrien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, bonjour à mon frère Arsène qui vient de parler avant moi.
Quelle est votre contribution, Adrien?
Merci beaucoup, JR. Je suis très à l'aise à commenter ces sujets parce que moi aussi, j'étais enseignant jusqu'à l'année passée. J'ai fait 5 ans dans l'enseignement, donc je félicite déjà la promo scolaire pour le travail et cette évaluation. Mais je crains que ça soit encore des recommandations de plus parce que vous-même, vous lui avez posé la question de l'état d'avancement, ça ne produit rien, on fait des choses à la routine. Alors, mon intervention va s'axer en 3 avant de répondre à vos questions. C'est sur la formation de l'enseignant. L'éducation, c'est l'héritage le plus absolu qu'on peut donner à la progéniture. Et l'investissement qui ne tarit jamais, c'est l'investissement dans l'homme. Et aujourd'hui, la grande difficulté qui se trouve dans tous les secteurs de la vie, la difficulté a commencé d'abord par l'enseignement. Je donne un exemple typique. À l'école, c'est à l'école qu'on apprend le respect, c'est à l'école qu'on apprend le civisme, aimer le pays. Tous les principes fondamentaux de la vie humaine commencent par l'école, parce que l'école, c'est aussi un centre d'éducation après la maison ou la famille qui aujourd'hui est en difficulté. Mais quel est l'état de l'école? Qui va remplacer le parent à l'école? C'est l'enseignant. Quelles sont les conditions de vie d'un enseignant aujourd'hui? Voilà la première préoccupation. L'enseignant, c'est lui qui impose l'éducation et c'est l'éducateur qui doit fixer les conditions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. Allez dans les écoles privées. Lorsqu'un enseignant a des difficultés avec un enfant, un enseignant peut être réprimandé en présence de l'enfant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'enfant qui donne l'argent à l'école. Et aujourd'hui, les écoles privées deviennent plus chères que les écoles publiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'école privée, on estime qu'il y a plus de sérieux parce que les enseignants de l'école privée sont mieux payés. La formation continue de l'enseignant, de la clé. Parce que l'enseignement doit toujours être renouvelé. Mais aujourd'hui, parce que j'étais à l'école secondaire, il y a des enseignants qui ont des livres de 1900, 1800, les livres qui ont déjà duré plutôt 1980, 1990. Mais ils ne font plus la mise à jour. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent plus, ils n'ont plus l'envie.
Oui, mais c'est un problème de moyens également, Adrien. Dans cette émission Parole aux auditeurs, nous avions reçu à une certaine époque l'association des écrivains. Des professeurs écrivains ou des enseignants écrivains qui avaient demandé en son temps au ministre Makere Mwango de pouvoir reconnaître cette association et de leur doter des moyens afin de continuer à publier les ouvrages pouvant aider et les enseignants et les apprenants pour améliorer la qualité de l'enseignement. Mais cela a été n'a pas été pris en compte faute de budget parce que les budgets en son temps, avant qu'on décide sur le plan international et donner l'orientation au pays de faire un effort d'arriver même à 10% de budget national pour consacrer à l'enseignement. Aujourd'hui, on tend vers ça, mais on n'y est pas encore. Donc, c'est quand même un problème. Parce que là, c'est aussi un problème à prendre en compte.
Voilà, d'ailleurs, c'est l'épine même dorsale, parce que je, ce n'est pas que je condamne la construction des 1000 écoles, le programme, et moi, je n'étais pas d'accord. Parce que vous allez vous rappeler qu'il y a beaucoup d'autorités, les gens qui sont dans ce pays, qui dirigent, mais qui ont étudié dans des écoles au village où ils étaient assis au niveau des tombeaux. Mais qu'est-ce qui comptait ? C'était les enseignants, les chevronnés. Regardez l'ancien système, les gens qui ont étudié à l'époque des Belges avec les D4. Les D4 étaient des gens mieux qualifiés parce qu'ils étaient formés par des personnes qui étaient bien entretenues. Deuxième axe, c'est en ce qui concerne la situation des NP. Là encore, c'est ce que j'appelle l'escroquerie de l'État. L'État reconnaît à la personne qui travaille, mais le même État dit « je ne peux pas te payer, mais quand même continue à travailler ». Mais lorsque vous êtes entrepris par un privé et que le privé ne vous paye pas et que vous allez porter plainte, vous allez trouver les juges qui vont condamner le privé qui vous a fait travailler sans pour autant vous donner le salaire. Alors voilà cette anecdote. Aujourd'hui, l'État se complaise de donner le numéro matricule aux gens et il reconnaît aux personnes qui travaillent, mais l'État ne se soucie même pas des conditions dans lesquelles ces gens vivent. Et on les expose à quoi ? À la corruption.
Voilà. Je crois que c'était quand même important pour nous, lorsque nous avons pris la décision d'inviter par 3-4 fois pour balayer tous ces problèmes de l'enseignement, sur les plans politiques aussi, parce que c'est quand même important. Raison pour laquelle nous avons sollicité d'avoir dans ces studios le ministre de l'EPSP, l'actuel, pour nous dire ou nous éclairer sur la continuité de la chose publique, parce que son prédécesseur avait pris quand même cette option à cœur pour arriver finalement à résoudre cette question épineuse de NP. Mais bon, malheureusement, tous nos efforts, ça fait 3-4 fois que nous avons contacté les ministres qui étaient pris par d'autres charges de l'État selon lui. Donc, raison pour laquelle nous faisons avec ses collaborateurs, les collaborateurs qui ne peuvent pas résoudre en fait les problèmes d'aspect politique. Voilà. Adrien, je crois que c'est ça la préoccupation. Mais vous avez parlé de la formation et les deux autres aspects, vous ne les avez pas évoqués.
Bon, le dernier aspect, le deuxième, c'était au niveau de l'NP que vous venez à peine de compléter. Mm-hmm. Merci beaucoup. Et le troisième aspect, c'est au niveau des matériels didactiques. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons des sections qui ne produisent rien. Nous sommes dans l'enseignement des masses au lieu d'être dans l'enseignement des qualités. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des sections parce que notre pays a des richesses. On se pose la question pourquoi le Congolais est pauvre. C'est tout simplement parce que le politique congolais n'a pas encore su exploiter 80 millions de cerveaux. Nous avons des jeunes très intelligents, mais on a quel type de section ? Vous avez les sections populaires, c'est la pédagogie générale. Et si vous allez en pédagogie générale, très peu d'élèves qui vont en pédagogie peuvent vous confesser qu'ils peuvent devenir des enseignants à l'école primaire. Après tout, ils étudient sans savoir ce qu'ils vont faire dans la vie active. Vous avez des sections comme la chimie, biologie et maths, physique. Il y a combien de laboratoires à section-là. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'un diplômé de biochimie fait au Congo ? Il ne fait rien du tout s'il n'a pas la chance de continuer avec ses études. Voilà pourquoi, à l'une des réunions, parce que nous avons eu aussi...
Et qu'est-ce que vous recommandez ? Parce que, par exemple...
La recommandation que nous avions donnée à l'une des réunions, c'était d'abord de pouvoir adapter l'enseignement de la République démocratique du Congo par rapport aux réalités congolaise. Parce que nous avons des facultés à l'université. Je prends l'exemple des facultés de pétrole et gaz. Au Congo, nous avons le pétrole et gaz. Nous avons des minerais de cuivre. Nous avons de cobalt. Mais on n'a pas d'industrie de transformation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les enfants ne sont pas préparés à cela. Voilà pourquoi. Allez à des facultés de polytechnique, il y a combien d'étudiants ? Mais allez dans d'autres facultés, lettres, droits, sciences politiques, mais vous trouvez le monde. Mais
merci beaucoup Adrien. Alors là, je renvoie, nous donnons le luxe de renvoyer les gens quand même à lire la loi cadre de l'enseignement revue et corrigée, en tout cas aux assises des Zongo, avec qui avait réuni à l'époque et les enseignants, les professeurs des universités, les enseignants du secondaire et des primaires, ensemble les outillés, donc ceux qui travaillent, les experts, ont travaillé sur ces documents qui a été revu et corrigé et cet aspect des choses, l'adaptation où l'objectif était d'adapter l'enseignement par rapport aux réalités du Congo, comme vous l'avez souhaité. Merci beaucoup. Adrien, c'est vrai, nous retenons simplement que l'enseignement actuellement fonctionne dans un esprit des masses, que dans l'esprit d'amener un enseignement de qualité. Alors, raison pour laquelle vous avez proposé qu'il soit adapté aux réalités du Congo. Merci beaucoup, Adrien. Alain Bolodjo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Alain, vous êtes avec nous ? Voilà, on va revenir à Alain. D'accord. Alain, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis en
Bandaka.
Alors, vous êtes un Bandaka, Alain. Vous avez suivi Adria tout à l'heure, qui dit que nous sommes bel et bien dans l'enseignement des masques, dans l'enseignement de qualité, et qu'il va falloir adapter l'enseignement, notre enseignement, par rapport aux réalités du Congo. Et vous avez également suivi notre invité, ainsi qu'Arsène. Tous, en fait, on reconnaît qu'il y a un problème au niveau de la qualité, mais qu'à faire pour l'améliorer?
Bon, moi personnellement, j'estime que le problème est plus complexe que ce que nous disons. C'est vrai qu'il y a des éléments qui ont été relevés par mes prédécesseurs, mais ce qui est vrai, si nous prenons, nous nous référons à l'histoire de l'enseignement ou du système d'enseignement congolais, on va se rendre compte que nous avons connu des problèmes vers les années 61, par le simple fait qu'il y avait une crise politique qui ont poussé certains enseignants étrangers à quitter notre espace. Et cela a conditionné notre système d'enseignement. Il a fallu que le gouvernement prenne la décision de créer l'école moyenne qui est devenue par la suite l'école supérieure et aujourd'hui l'université pédagogique nationale pour former les enseignants. S'il y a un problème en termes de financement ou en termes de la rémunération des enseignants, nous devons aussi reconnaître qu'il y a un problème en termes de la qualité des enseignants, mais surtout en termes de la formation. Parce que nous nous rendons compte que la plupart d'enseignants qui sont dans au niveau des humanités surtout, ce sont des gens qui ont opté pour d'autres formations, mais le fait qu'ils ne se sont pas retrouvés dans leur domaine, ils se sont déversés dans l'enseignement tout simplement parce qu'ils considèrent l'enseignement comme un secteur de refuge pour leur emploi. Alors que le psychopédagogue, les gens qui ont eu la chance, eu l'opportunité de suivre des formations en termes de techniques et méthodes d'enseignement, qui sont ont préféré plutôt quitter l'enseignement et laisser la latitude ou libre arbitre aux gens qui n'ont pas assez de formation sur les méthodes et techniques d'enseignement. Alors, il y a aussi un autre problème en termes de répartition géographique des écoles. C'est ce qui met en évidence le déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande en termes d'enseignement. Parce que dans la qualité de l'enseignement, on doit aussi voir la qualité des bâtiments, des infrastructures, la capacité d'accueil. Mmh. Si on prend en compte, si on juxtapose la problématique de la qualité et la problématique de la quantité, on se rend compte qu'effectivement, notre système d'enseignement n'est pas adapté à notre réalité. Lorsque nous faisons nos voyages au niveau de province, on se rend compte que le système d'enseignement n'est pas adapté aux besoins de la société, tout simplement parce qu'on voudrait faire du mimétisme. On voit ici, par exemple ici à Mbandaka, il n'y a pas une école de pêche. Alors que l'essentiel de l'économie est basé sur la pêche. Mmh. Il n'y a pas assez d'école ou il n'y a pas d'école sur l'élevage. Et pourtant, il y a un besoin criant en termes d'élevage. Il y a un problème en termes d'exploitation forestière. Il n'y a pas d'école. Donc tout ce qu'il y a comme potentiel, malheureusement, on n'arrive pas à adapter le système d'enseignement par rapport à cette réalité. Voilà pourquoi je rejoins mon prédécesseur qui a bien cerné la chose. Donc, quelque part, je me dis, nous devons quitter, nous devons migrer d'un système d'enseignement vers une politique d'enseignement. Pourquoi je parle de la politique d'enseignement? La politique d'enseignement doit être une politique sectorielle qui doit se greffer à la politique économique pour que nous arrivions à adapter notre système d'enseignement ou notre politique d'enseignement par rapport aux besoins de développement. Mais malheureusement, on n'a pas tenu compte de ça. Et je me rends compte, j'ai un bulletin devant moi ici, mmh. où vous voyez une école donner un diplôme ou un bulletin à l'enfant, mais avec des erreurs graves. Sur un total de 60 points, l'enfant a 65 points. C'est-à-dire qu'il y a un dépassement même par rapport à la cotation. Mm-hmm. Donc il y a une sorte de négligence par le simple fait que les gens voudraient nous faire croire que le fait qu'ils sont sous-payés
ils ont le droit de sacrifier, toute une génération, tout simplement parce qu'ils sont sous-payés. Au lieu de démissionner, ils préfèrent donner des enseignements bâclés à nos enfants. Et cela conditionne aussi le.
Mais la place, de, oui, allez, madame. Oui,
l'économie de notre pays.
Allez, mais à cela, la place maintenant des inspecteurs. Parce que quand nous observons de près, même le manuel, le bulletin là, le bulletin imprimé par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire actuellement, on se rend compte qu'il y a certains cours qui sont repris, au fait, dans ce bulletin comme matière retenue, mais dans l'ensemble, nous prenons le cas par exemple des cours d'informatique circulés dans toutes les écoles, vous remarquerez qu'à peine un enseignant entre une fois, peut-être on ne connaît pas réellement sa charge horaire, et les cours comme travail manuel, c'est des cours qu'on devait déjà enlever et revoir toute la répartition claire des matières à donner. Est-ce que vous partagez cet avis?
Effectivement, je partage cet avis. Parce que si vous prenez en termes de travail manuel, j'ai des enfants, on demande à mes enfants d'amener du savon. Le savon n'est pas le travail manuel, en fait. Le travail manuel, c'est tout simplement pour développer
ou un balai.
Sensorie moteur pour que l'enfant puisse arriver à utiliser ses mains pour essayer de modeler certains produits et de faire en sorte qu'il puisse développer son génie. Mais lorsque vous demandez à l'enfant le savon ou le papier hygiénique, je me dis quelque part, c'est plutôt aux parents que vous demandez parce que l'enfant n'a pas le moyen. Mmh. Et si vous prenez en termes de la qualité de l'enseignement, effectivement, il y a un problème même au niveau de l'inspection. Parce que l'inspection fait aujourd'hui un travail bâclé, un travail avec complaisance, et tout simplement parce qu'on a essayé de commercialiser l'enseignement. On est plus dans le showbiz,
voilà.
Dans le business.
Voilà, je crois que c'est lui.
Aujourd'hui, il y a un problème.
C'est le combat. Merci.
Si nous voulons rétablir les choses comme telles, moi je demanderais d'abord au ministère de l'enseignement et au gouvernement d'orienter des gens vers la psychopédagogie, que nous ayons des gens qui ont une certaine spécialité, qui ont une certaine maîtrise en termes de méthode, les techniques, pour que nous nous rassurions aussi de la qualité. Ce n'est pas qu'on doit prendre tous ceux qui ont échoué dans la vie et les déverser dans l'enseignement. Et qui demandent qu'on revoie leurs conditions de vie, eux aussi doivent se mettre à niveau.
Pour que nous rassurions. Merci. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Vous avez fait des propositions par rapport à cette promo scolaire, comme l'avait fait également votre prédécesseur Adrien, en disant qu'il va falloir adapter l'enseignement par rapport aux réalités du Congo pour quitter l'enseignement des masses vers l'enseignement de qualité. Et vous avez dit, il s'agit plutôt d'un système d'enseignement, il va falloir migrer vers la politique d'enseignement qui sera orientée vers la gestion, en fait, orienter la gestion de cet enseignement vers la psychopédagogie. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80.
Engagement citoyen, le magazine de l'éveil de la conscience de chaque citoyen pour son implication dans le développement du pays. Engagement citoyen pour un nouveau type de citoyen, pour un Congo nouveau. Suivez ce magazine de promotion des bonnes pratiques citoyennes. Tous les samedis à 16h30 et 22h30, le lundi à 14h15. Engagement citoyen, engageons-nous pour donner un avenir meilleur aux générations futures.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Monsieur Mbo Ntula, vous êtes directeur chargé des relations internationales à l'EPSP et président du bureau de la promo scolaire qui s'est tenu d'ailleurs il y a quelques temps. Vous avez suivi les uns et les autres et aussi des recommandations ou encore des plaidoyers faits par certains auditeurs. Je prends les tout derniers, Adrien et Alain. Le premier a parlé de l'état des lieux de notre enseignement en disant que nous sommes bel et bien dans l'enseignement des masses que plutôt dans l'enseignement des qualités. Alors il va falloir adapter cet enseignement par rapport aux réalités du Congo. Et Alain Bolodjoa a insisté pour ce changement du système de l'enseignement à une politique d'enseignement afin d'orienter sa gestion vers la psychopédagogie. Est-ce que vous partagez cet avis, Monsieur Mbo?
Voilà, on a des petits... nous étions en pleine réforme de l'enseignement. En pleine réforme de l'enseignement. Cela nous est imposé par la nouvelle stratégie, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Donc, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Nous sommes en pleine réforme. Mais ce qui me paraît un peu déplacé, c'est de ne pas reconnaître les efforts qui sont déployés par le ministère dans cette réforme. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va améliorer la qualité de l'enseignement. C'est un travail de longue haleine.
Et quels sont ces efforts
rien, je ne pense pas.
Quels
on fait beaucoup de choses au ministère. Mm-hmm. Mais c'est un processus. C'est un processus. Les uns et les autres ont raison de proposer ceci, de proposer cela. Ils ont raison. Parce que l'enseignement, c'est l'affaire de tout le monde. Mm-hmm. Mais il y a un ministère qui gère l'enseignement et qui peut prendre en compte tout cela. Et il y a toute une stratégie du secteur, et il y a des programmes d'activité, beaucoup de programmes d'activité pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il faut reconnaître ça. Mmh. Mais voilà ce que je peux dire. Moi, je le répondais dans le cadre, si j'ai accepté l'invitation, c'est parce que j'ai présidé le bureau, de la promo nationale, promo scolaire nationale. Et nous avons longuement parlé de la qualité. Et on ne se cache pas la figure par rapport à ça. La qualité de l'enseignement a beaucoup baissé. C'est pourquoi le ministre avait décidé le quinquennat de la qualité. Depuis 3-4 ans, nous ne parlons que de la qualité en promo. Enfin, nous parlons de l'accès, nous parlons aussi de la gouvernance. Mais on met l'accent sur la qualité parce que c'est un problème très sérieux. Ce que les autres ont avancé, ce sont de bonnes idées, c'est pas mauvais, mais qui reconnaissent que le ministère est en train d'exécuter une réforme. Réforme sur la formation initiale, la formation continue des enseignants, la réforme curriculaire sur le programme. Beaucoup de choses sont faites. Il faut reconnaître ça.
Oui, monsieur Mbo, je crois que dans la stratégie prise par le gouvernement, il était pris en compte aussi les objectifs des EMD, les objectifs millénaires de développement à l'époque pour tendre vers une émergence et l'élitisme au niveau de l'enseignement d'ici 2015. Et nous avons déjà dépassé 2015. On n'a pas atteint les niveaux. Nous avons fait l'émission ici avec le ministre honoraire, Makir Mwango, qui avait reconnu. C'est vrai, je l'ai dit aussi, des efforts qui ont été consentis par le gouvernement, entre autres pour améliorer la qualité ou les conditions de travail des enseignants, en mettant par exemple la question sur la mutuelle de santé et aussi la bancarisation de ces derniers, et un effort pour arriver à mécaniser ceux qui ne le sont pas, et aussi trouver solution pour ce qui concerne les non-payés, les NP. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez reconnu aussi dans cette dernière promo scolaire, qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui constitue des écueils ou encore des pesanteurs pour qu'on n'arrive pas à résoudre sensiblement cette question de la qualité?
Bon, moi, je crois que pour ne pas me répéter, j'ai bien dit qu'il faut former les enseignants. Il faut mettre à leur disposition les manuels scolaires ainsi que les autres matériels d'enseignement, les matériels didactiques. Au risque de nous répéter, la qualité de l'enseignement passe par là.
Oui, mais vous, au niveau du secrétariat général, vous êtes technique. Est-ce que vous insistez auprès du ministre qui au fait a ses prérogatives de la gestion de l'enseignement primaire et secondaire au niveau du pays, pour arriver aussi à plaider au niveau du conseil de ministre afin que cette question puisse trouver une solution? Parce qu'on se rend compte que finalement cette promo scolaire fait du sous-place.
Oui, je ne pense pas que ça soit du sur-place, parce que on a quand même évalué, on a constaté que... On est en train de progresser dans la réforme. Mais il y a des points sur lesquels il faut mettre l'accent. Mmh. Bon, vous parlez de notre ministre des tutelles.
L'actuel, Gaston Moussemena.
Oui, mais lui n'est pas le ministre des Finances, ni le ministre du Budget. Mais c'est un membre du gouvernement, et il ne fait que ça, il ne fait que le plaidoyer en faveur de son ministère. Ça, il le fait.
Non, mais défendre et montrer la priorité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme l'a dit Arsène, dans une décennie à venir, nous risquons d'avoir un problème de la gestion du pays si cette qualité, cette question, cette problématique de la qualité de l'enseignement n'est pas résolue aujourd'hui.
Oui, nous sommes optimistes. Nous, on est optimistes et nous pensons que si les moyens sont mobilisés, il y a moyen, d'ici quelques années, à lire les résultats de la réforme.
Voilà, nous vous gardons encore en ligne pour écouter la deuxième série des auditeurs. Il y a ingénieur Valérie qui nous a rejoint à Kinshasa et puis Trésor à Tchikapa. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous, bonjour. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt Trésor qui est à Tchikapa. Trésor, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à la radio Capier, bonjour à notre invité.
Oui, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ma préoccupation est la suivante concernant les sujets du jour. Est-ce que monsieur le ministre s'est intéressé de la situation de l'enseignement au Kasaï et que beaucoup des masques ou manuels scolaires ont été brûlés par les mouvements qui étaient en place? Qu'est-ce que les gouvernements songent ou s'intéressent à cette situation? C'est ça ma préoccupation.
Voilà. Mais vous, personnellement, comment jugez-vous la qualité de l'enseignement et la formation qui passe par la formation des enseignants? Vous, personnellement, quel regard avez-vous?
Oui, selon la formation des enseignants, il faut qu'on multiplie la formation... qu'on donne beaucoup de matériels, tels que des casques, pour qu'on renforce bien la formation pour ces temps, parce que dernièrement, la formation ou l'enseignement au Kasaï était au rabais. C'est ça au moins pour moi.
Oui, mais vous avez suivi Adrien et Alain Bolodja qui ont proposé un changement au niveau de système d'enseignement, de passer plutôt pour la politique de l'enseignement. Quel est votre avis?
Oui, selon les changements de l'enseignement, pour ces temps, nous voulons qu'on multiplie des formations, c'est-à-dire qu'on organise des centres plus proches des formations, les enseignants, et même qu'on les envoie les masques, les manuels scolaires pour bien renforcer la capacité des enseignants et pour que les taux de l'enseignement au Kasaï ou au Congo avancent.
Merci beaucoup, Trésor. Alors, on va lire quelques messages. Merci à vous tous qui avez commenté ces sujets sur notre page Facebook. Augustin Katanga Wangoy salue l'initiative, mais il s'est dit pessimiste quant aux recommandations qui risquent de rester lettre morte vu la faillite, voilà, de l'État. Comment est-ce qu'on peut avoir le courage de créer les écoles de proximité au moment où beaucoup d'écoles n'ont pas d'infrastructures modernes? Il va falloir procéder d'abord par l'aménagement de toutes ces écoles pour en créer les autres. Il faudrait revoir les inégalités sociales pour ne pas créer la frustration. Comment peut-on avoir le courage d'enseigner au moment où on est démotivé? Sinaï Jean-Pierre pense que notre pays développe une croissance démographique très très élevée, d'où il faudra lui attribuer aussi une croissance éducationnelle, c'est-à-dire lui donner un équipage infrastructurel, voilà ce qu'il a dit, adéquat et un personnel performant pour lui permettre de faire face à l'analphabétisme. Depuis plusieurs années, on se rend compte que les autorités ne s'éternisent que sur des théories. Les écoles lancent chaque année des milliers d'enseignants alors que ceux des 1960 ne sont pas retraités. Les bâtiments abritant les élèves construits du temps des Belges sont dans des états de délabrement très très avancés. Deyo Mongbongo estime que l'offre est acceptable, mais comment devons-nous donner de la priorité à toutes ces suggestions qui ne sont pas réalisées qu'au niveau du monde des idées? En plus, les autorités se souviennent aussi qu'il existe des établissements qui sont aujourd'hui délaissés pour compte. Alors qu'elles prennent d'abord le luxe d'investir la méthode présente et les systèmes supposés de renforcement pourraient intervenir de l'autre côté. Les enseignants sont traités en parents pauvres. Les autorités nous disent que les études coûtent cher. Elles vont même très loin pour les comparer à l'Europe. Théodore, pour finir, Mwamba pense qu'il ne suffit pas de multiplier les formations et de créer les réseaux de proximité, mais il faut nécessairement remplacer les enseignants, car 80% d'entre eux sont des personnes de troisième âge. Étienne, vous êtes à Guémena, bonjour et bienvenue.
Bonjour à Dokapi, bonjour à tous les auditeurs et à votre invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci monsieur le journaliste. Je crois que j'ai suivi les prédécesseurs et même l'invité. Bon, je pense que la promo scolaire a essayé de relever certains problèmes qui sont capitaux pour la relance de notre système éducatif. Mais il se pose, monsieur le journaliste, un problème. Je pense que, comme a dit certains prédécesseurs, le système éducatif congolais n'est pas tellement adapté aux réalités congolaises. Ici, je voudrais donner pratiquement quelques exemples. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, ce sont plus les partenaires extérieurs qui contribuent à la qualité de l'enseignement par rapport au gouvernement congolais. C'est parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui viennent en appui et beaucoup de formations se donnent aux enseignants. Mais vous comprendrez que tout ce qui se donne, je prends l'exemple de la pédagogie active et participative, ce qui est plus prôné à l'école primaire parce que c'est l'école de base. Mais vous comprendrez que ce qui sort de l'école secondaire, de la pédagogie générale, au niveau de la pédagogie générale, dans le degré terminal, on ne leur donne pas cet enseignement-là de la pédagogie active et participative. Alors, et ils ont une didactique un peu autre que ce qui est prôné sur le terrain. Alors, lorsque ce jeune maître, ce jeune enseignant sort de l'école, il intègre la vie professionnelle, il se retrouve devant une difficulté qui ne leur permet pas d'adapter l'enseignement. Et c'est ce qui se pose problème. Or, moi, je souhaiterais ceci. Si normalement, le Congo voudrait à ce que, si on avait le souci vraiment de jeunes enfants congolais, on pourrait faire que chaque fois qu'il y a formation, chaque fois qu'il y a réforme au niveau de l'enseignement, qu'on puisse associer au moins les enseignants qui donnent les cours au secondaire, les didactiques, les disciplines, les didactiques générales, ça permettrait à ce que on puisse marier ce qui se donne à l'école primaire, à l'école secondaire. Ça permet que un jeune enseignant, lorsqu'il quitte l'école secondaire, il intègre la vie professionnelle, il est capable de faire très bien son enseignement. Ça, c'est de un. De deux, par rapport à l'enseignement du secondaire, je vous ai donné un exemple. Vous verrez la pédagogie ou à l'IPEN, tout ce qu'il faut, je donne l'exemple de filière de français. Il y a les unités didactiques qui se donnent aux Français, par exemple. Or, sur le terrain, les inspecteurs, quand ils passent, ils prônent la nouvelle approche appelée Sésame. Alors, cette approche Sésame n'est plus donnée aux universités. Or, ceux qui font français langue africaine, français latin, quand ils sortent, ils sont toujours butés à ces problèmes-là. Parce que, au niveau de l'enseignement supérieur, ils n'ont pas vu cette approche appelée Sésame, mais lorsqu'ils viennent sur le terrain, on leur impose d'enseigner selon ses âges. Donc vous comprendrez que le système congolais n'est pas tellement adapté. On est plus sur les aspects conceptionnels que d'avoir les aspects pratiques pour aider les enfants. Mais aussi, monsieur le journaliste, toutes les réformes qu'on est en train de faire, aussi longtemps que l'enseignant congolais, le pratiquant, n'est pas mis à jour, c'est-à-dire sa condition n'est pas améliorée. Vous comprendrez avec moi qu'il va seulement recevoir la matière, la nouvelle matière, mais en fait, il ne saura rien faire parce que c'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, partout ailleurs, nos diplômes ne sont pas considérés. Et puis, ce qui est plus grave, je ne sais pas si la promo nationale en a fait allusion.
Oui.
Je suis, comme parent, je suis quelque peu choqué. Parce que on suppose que quand les enfants font les examens d'État, on leur demande les frais de participation.
Oui. Voilà, donc tout ça, il y a quand même.
Demander,
oui. Il y a tout un mystère autour de cette histoire. Je crois que à 2 semaines de la rentrée scolaire, nous allons d'ailleurs y revenir sur les frais. On mènera quand même une enquête sur ce qui est demandé aux parents, comment les écoles privées s'y prennent. Est-ce que la décision de fixer certains frais publics par les autorités locales, notamment les gouverneurs de la ville, est-ce que tout ça a été aussi discuté au niveau de la promo scolaire, des instructions pour l'année scolaire 2016-2017-2018. On va faire le suivi avec le ministère. Emery, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue.
Bonjour Julien, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Voilà, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci, j'aimerais directement m'intéresser à monsieur l'invité. Je ne sais pas si la promo scolaire a apporté un plus par rapport à ce qui s'est fait sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Parlant des conditions du travail des enseignants, vous verrez qu'il y a un problème majeur. Adrien Akisasa a parlé de l'école comme étant prolongement de la famille. Vous verrez que beaucoup d'enfants ne préfèrent pas de devenir enseignants parce qu'ils disent que devenir enseignant, c'est perdre votre carrière. Et vous savez, ici à Kananga, par exemple, parlant de la qualité de l'enseignement, c'est vague. Vous verrez des enseignants qui utilisent des manuels qui datent de longtemps. Et il y a même dans les écoles privées, on considère les élèves comme étant des marchandises. Et beaucoup d'enseignants qui enseignent dans des écoles publiques préfèrent donner cours chez les privés parce qu'ils sont mieux payés et ils sont mieux gérés, ce qui n'est pas du tout normal. Et il y a aussi un problème qui se pose. Nous avons les inspecteurs ici au Kasaï. Et je demande à monsieur l'invité, est-ce que la promo scolaire n'a pas parlé aussi à ce qui concerne les inspecteurs? Parce qu'actuellement, ce qui se passe. Vous savez, monsieur Julien, quand on considère les enfants comme étant des marchandises, c'est-à-dire même si l'enfant a échoué, même si l'enfant n'a pas payé les frais, et l'enfant
ne peut pas le récaler
d'une promotion à une autre. Vous-même, avec de telles histoires, vous pensez que nous allons garder notre qualité dans enseignement à la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup. Et
enfin, oui. Moi je vois qu'il y a ce qu'on appelle clientélisme sur le plan éducatif. Sur le plan éducatif, il y a le clientélisme.
Qu'il va falloir améliorer.
Des mesures,
voilà, ou éradiquer carrément. Voilà.
Le système
est dégueulasse. Merci beaucoup, Emery. Alors, monsieur Mbo, Ntoula, nous revenons à vous pour conclure cette émission. La promo scolaire a vécu. Je crois que l'heure est maintenant à l'application des recommandations. Comment les ministères ou par les biais de son service technique, je parle là de secrétariat général, où vous êtes directeur chargé des relations internationales et en même temps président du bureau de la promo scolaire, comptez donc exécuter ces recommandations, monsieur Mbo.
Merci JR, merci Radio Capi. Bon, en guise de conclusion, je peux dire que les uns et les autres qui sont intervenus ont raison, parce que la crise de qualité dans notre enseignement ou la baisse de la qualité de notre enseignement, c'est un problème dont on ne peut pas se cacher. C'est un problème qui est
réel,
très clair.
Ouais.
C'est pas pour rien que le ministère a décrété, comme je l'ai dit tout à l'heure, le quinquennat de la qualité. C'est vraiment un problème très sérieux. Mais il faut reconnaître que les autorités en sont conscientes. Et les autorités appliquent les programmes prévus dans la stratégie pour arriver à améliorer la qualité. Tout le monde parle des enseignants, des manuels scolaires, des programmes. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Et le ministère en est conscient et est en train d'exécuter la réforme dans ce sens-là, pour améliorer. Mais il faut beaucoup de moyens.
Merci beaucoup, monsieur Mbo Ntoula. Nous rappelons que vous êtes directeur chargé des relations internationales à l'EPSP et président du bureau de la promo scolaire 2017. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ce programme, Alain Ngoy et Nico Kalambay. Cette émission vous a été présentée et coordonnée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Les programmes se poursuivent sur Okapi. Tout à l'heure, vous allez suivre les bulletins d'information avec Onésime Mukandila. Et après, vous aurez d'autres programmes. de nos émissions. Gardez donc votre fidélité à ce radio, à cette radio de la paix. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.